Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, 16h. Tout de suite, pas la peine de crier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invitée de cet après-midi s'appelle Bérangère Soustre de Condard à Bourdin. Elle est anthropologue judiciaire, historienne entre autres. Avec elle, une troisième étape dans cette semaine imaginée autour du mot répétition. Nous discutons aujourd'hui de la répétition de scènes et de scénarios criminels élaborés par ceux que l'on appelle les tueurs en série. Ça recommence. Dans les feuillets d'hypnose que le poète français René Char publie en 1946, soit un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont réunis des poèmes écrits entre 1943 et 1944, alors que Char sert dans la Résistance. Il dédie ce recueil à Albert Camus et on peut y trouver des fragments, des maximes, de courtes réflexions comme écrites en marchant. J'écris brièvement, je ne puis guère m'absenter longtemps, cette allée conduirait à l'obsession, l'adoration des bergers n'est plus utile à la planète. On lit aussi « La France a des réactions d'épave dérangée dans sa sieste ». L'un de ces fragments dit encore, et c'est celui-ci qui nous concerne, « L'acte est vierge, même répété ». Il est 16h passé de 1 minute, ça fait 907 fois qu'on le dit. Vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Vers 16h13, le Polaroid du jour fait apparaître une bonne vieille route. Vers 16h20, entretien. Troisième moment d'une semaine entièrement pensée autour du thème répétition. Après l'histoire qui ne se répète pas et la psychanalyse qui pense plusieurs types de répétition, aujourd'hui c'est aux criminels que l'on s'intéresse, précisément à ceux qui élaborent des scénarios ou des modes opératoires répétitifs. Vers 16h50, nous écouterons un poème de Valérie Rouzeau et enfin à 17h, nous retrouverons les équipes du 5 à 7. En attendant, c'est le comédien Yves-Noël Genot qui déballe ses rayons littéraires. Il lit aujourd'hui pour vous un extrait des Mémoires de Saint-Simon. On l'écoute.
Louis XIV, uniquement personnel. Madame la duchesse de Bourgogne était grosse. Elle était fort incommodée. Le roi voulait aller à Fontainebleau. Contre sa coutume, dès le commencement de la belle saison, elle avait déclaré. Il voulait ses voyages de Marly en attendant. Sa petite fille l'amusait fort, il ne pouvait se passer d'elle, et tant de mouvements ne s'accommodaient pas avec son état. Madame de Maintenon en était inquiète, Fagon en glissait doucement son avis, cela importunait le roi. Accoutumé à ne se contraindre pour rien, et gâté par avoir vu voyager ses maîtresses grosses ou à peine relevées de couches, et toujours alors en grand habit. Les représentations sur les Marly le chicanèrent, sans les pouvoir rompre. Il différa seulement à deux reprises celui du lendemain de la Quasimodo et n'y alla que le mercredi de la semaine suivante. Malgré tout ce qu'on put dire et faire pour l'en empêcher ou pour obtenir que la princesse demeurât à Versailles. Le samedi suivant, le roi se promenant après sa messe et s'amusant au bassin des Carpes, entre le château et la perspective, nous vîmes venir à pied la duchesse du Lude, toute seule, sans qu'il y eût aucune dame avec le roi, ce qui arrivait rarement le matin. Il comprit qu'elle avait quelque chose de pressé à lui dire. Il fut au-devant d'elle, et quand il en fut à peu de distance, on s'arrêta et on le laissa seul la rejoindre. Le tête-à-tête ne fut pas long, elle s'en retourna, et le roi revint vers nous, et jusque près des Carpes, sans mot dire. Chacun vit bien de quoi il était question, et personne ne se pressait de parler. À la fin, le roi, arrivant tout auprès du bassin, regarda ce qui était là de plus principal et, sans adresser la parole à personne, dit d'un air de dépit ses seules paroles « La duchesse de Bourgogne est blessée. » Voilà monsieur de La Rochefoucauld à s'exclamer, monsieur de Bouillon, le duc de Trèmes et le maréchal de Boufflers à répéter à basse note, puis monsieur de La Rochefoucauld à se récrier plus fort que c'était le plus grand malheur du monde et que s'étant déjà blessée d'autrefois, elle n'en aurait peut-être plus. « Et quand cela serait ?» interrompit le roi tout d'un coup avec colère. Qui jusque-là n'avait dit mot. « Qu'est-ce que cela me ferait? Est-ce qu'elle n'a pas déjà un fils? Et quand il mourrait, est-ce que le duc de Berry n'est pas en âge de se marier et d'en avoir? Et que m'importe qui me succède des uns ou des autres? Ne sont-ce pas également mes petits-fils? et tout de suite avec impétuosité. « Dieu merci, elle est blessée, puisqu'elle avait à l'être. Et je ne serai plus contrarié dans mes voyages et dans tout ce que j'ai envie de faire par les représentations des médecins et les raisonnements des matrones. J'irai et viendrai à ma fantaisie et on me laissera en repos. » Un silence à entendre une fourmi marcher succéda à cette espèce de sortie. On baissait les yeux, à peine osait-on respirer. Chacun demeura stupéfait, jusqu'aux gens des bâtiments et aux jardiniers demeurèrent immobiles. Ce silence dura plus d'un quart d'heure. Le roi le rompit, appuyé sur la balustrade, pour parler d'une carpe. Personne ne répondit. Il adressa après la parole sur ces carpes à des gens des bâtiments qui ne soutinrent pas la conversation à l'ordinaire. Il ne fut question que de carpes avec eux. Tout fut languissant et le roi s'en alla quelque temps après. Dès que nous osâmes nous regarder hors de sa vue, nos yeux se rencontrant se dirent tout. Tout ce qui se trouva là de gens furent pour ce moment les confidents les uns des autres. On admira, on s'étonna, on s'affligea, on haussa les épaules. Quelque éloignée que soit maintenant cette scène, elle m'est toujours également présente. Monsieur de la Rochefoucauld était en furie, et pour cette fois n'avait pas tort. Le premier écuyer empâmait d'effroi. J'examinais, moi, tous les personnages des yeux et des oreilles, et je me sus gré d'avoir jugé depuis longtemps que le roi n'aimait et ne comptait que lui, et était à soi-même sa fin dernière. Cet étrange propos retentit bien loin au-delà de Marly.
Yves-Noël Genot, vous nous lisez un extrait des Mémoires de Saint-Simon, où l'on voit le roi dans sa propre fin, dans son seul rapport à soi.
Ben oui, Saint-Simon, c'est formidable parce que c'est, je veux dire des banalités, mais c'est un livre qui a été écrit, un livre immense qui a été écrit d'une manière totalement libre parce que Saint-Simon ne voulait pas le publier de son vivant. Et il a demandé, je crois, dans son testament, que si c'est publié, ça le soit deux générations après sa mort. Donc, il était complètement libre d'écrire. Il n'y avait pas du tout d'autocensure et de tous ces arrangements. Donc, ça donne en même temps une véracité à tout ce qu'il raconte. Et puis, un style aussi très libre, comme ça, très inventif.
Parmi l'assemblée, ils disent, ils se pâment. D'autres sont totalement affligés. D'autres sont résignés. Vous seriez desquels face à cette figure royale ?
Oh, c'est terrible, hein, ça, cette histoire. Qu'est-ce que je... Mais ça arrive tout le temps, des cas pareils, hein.
C'est pour ça, c'est-à-dire que cette idée du roi, et si elle nous touche aujourd'hui, c'est qu'elle est aussi une image du genre de pouvoir que nous observons.
Absolument, c'est pareil. Oui. Moi, j'accuse le coup. Est-ce que ça m'arrive de ruer dans les brancards quand j'étais au lycée? Oui, peut-être, oui. Plus maintenant, je n'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que j'accuse le coup et puis je ressors désespéré, mais sans prendre de front. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est dirigé par des imbéciles? Mais parce que le fait même de vouloir le pouvoir est une imbécilité. C'est ça, c'est pour ça que ça...
Partagé par nombreux hommes.
Le fait de vouloir le pouvoir, oui.
Quelle musique vous voulez mettre après ce texte?
Ben, on va mettre une musique genre de Lully, par exemple, alors.
Thank you. Yves-Noël Jeuneau sera, si tout va bien, cet été au Festival Off d'Avignon, au théâtre La Condition des Soies, pour une nouvelle création, un spectacle autour de Baudelaire intitulé « Restez vivant ». Ce sera tous les jours du 5 au 27 juillet à 19h, une nouvelle création qui préfigure le spectacle programmé du 16 au 31 décembre prochain, cette fois au Théâtre du Rond-Point, à Paris, dans le cadre du Festival d'automne. « Restez vivant », un spectacle de Yves-Noël Jeuneau, mis en musique par Jonathan Capdevielle, d'après des poèmes de Michel Houellebecq. Demain, Yves-Noël Jeuneau poursuit le déballage de sa bibliothèque. Il nous lira un extrait de Vénus et Adonis de William Shakespeare. En attendant, vivons quelque apparition d'image, c'est le Polaroid. Il quitte la ville. Quelques ronds-points se font caresser le dos par des arrosages automatiques et légers. Il les contourne. Il quitte la ville sans respirer. S'il pouvait, il quitterait la ville en se cachant les yeux. Il quitte la ville sans dépasser la vitesse autorisée et s'il le pouvait, il le ferait en roulant sur toutes les plateformes fleuries. Il semble qu'il quitte la ville pour de bon. Et s'il le pouvait, il la quitterait pour de bon. Lorsqu'apparaît la première bretelle d'autoroute, qui ainsi vidée ne ressemble en rien à celle qu'il emprunte chaque jour, il ouvre la bouche pour un bol d'air monumental. Ses yeux se ferment automatiquement. Cela dure quelques millisecondes, mais suffit à faire remonter son cœur aux confins du sternum et lui coller une brève sueur entre les deux sourcils. Il accélère. Ouvre les yeux de nouveau, les quatre voies sont totalement vides et sur leur côté, l'étendue de nature à laquelle on ne croit presque plus le matin, quand des dizaines de voitures se disputent un bout de bande d'arrêt d'urgence et font s'emmêler les voix de leurs présentateurs radio. Alors qu'il est, tout est calme. Il descend l'une des fenêtres. Son ventre se dénoue à mesure que la voie défile sous les roues de sa voiture. Il en profite pour un deuxième puis un troisième bol d'air. Tout ce qui lui paraissait monumental il y a de cela 7-8 minutes recouvre une mesure tout à fait acceptable. Ses bras se le relâchent de part et d'autre du volant. Il sait qu'il ressemble à la caricature du type à la fin du film, mais c'est pas grave. I hold you in my arms. Oh, there's a band playing. What are those words whispered, baby? Just as you turn away. Well, I saw you last night out on the edge of town. I wanna read your mind and know just what I got in this new thing I found. So tell me what I see when I look into your eyes. Is that you, baby, or just a brilliant disguise? I heard someone call your name underneath my willow. I saw something tucked in shame underneath your pillow. Well, I tried so hard, baby, but I just can't see what a woman like you is doing with me. So tell me who I see when I look into your eyes. Is that you, baby, or just a brilliant disguise? Eyes. Now look at me, baby, struggling to do everything right.
this world in wealth. I wanna know if it's you I don't trust, 'cause I damn sure don't trust myself. Now you play the loving woman, I play the faithful man. Just don't look too close into the palm of my hand. When we stood at the altar, the gypsy swore our future looked right. But in the wee hours, maybe, baby, the gypsy lied. So when you look at me, you better look hard and look twice. Is that me, baby, or just a brilliant disguise? Tonight our bed is cold. I'm lost in the darkness of our love. God have mercy on a man who doubts what he sure of.
Pour ce Polaroid, Miss Chanel choisissait de vous faire entendre Brilliant Disguise, chanté par Elvis Costello. Il s'agissait d'une reprise d'un titre composé et interprété initialement par Bruce Springsteen en 1987. Cet extrait de son disque Tunnel of Love. Vous aurez remarqué que pour cette semaine répétitive, Miss Chanel n'a choisi pour la séquence Polaroid que des reprises de chansons. Ce sera précisément le thème de la carte blanche musicale de vendredi. Demain soir, jeudi 12 juin, la librairie La Litote à Paris vous propose une rencontre avec l'auteur de la poésie du Gérondif, parue aux éditions du Tripode de Jean-Pierre Minaudier. S'est mis à collectionner les grammaires des langues rares et convient aisément qu'il y a un plaisir pervers à posséder la bibliothèque la plus snob de Paris. Allez donc vérifier ça vous-même à la librairie La Litote. C'est non loin du canal Saint-Martin à Paris, non loin de la gare de l'Est, non loin de la Chapelle, et ils y sont sacrément accueillants. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, c'est la deuxième partie de notre émission et le troisième moment d'une semaine entièrement imaginée autour du mot répétition. Comme à notre habitude, nous éclairerons ce mot à la lumière de cinq disciplines jusqu'à vendredi. Nous disions lundi que chaque époque articule le passé, le présent et le futur d'une certaine manière en intégrant plus ou moins l'idée de la répétition à son écriture de l'histoire. À chaque époque correspond aussi un regard porté sur la violence, un regard porté sur les crimes et plus encore sur la répétition du crime. Si l'on s'en tient au scénario des principales séries télévisées des 10 dernières années, on peut convenir d'une certaine fascination, pour ne pas dire excitation, à l'égard de la violence sérielle. Très cinématographique, le tueur en série est une figure qui se prête, triste sur les exemples, parfaitement aussi à la médiatisation massive dont nos sociétés contemporaines sont capables. Autant de bruit qui brouille l'analyse de ces violences spécifiques. Si le 19e siècle a été tenté par l'explication biologique, physiologique, anatomique des criminels agissant en répétition, si le 20e n'a jamais vraiment choisi entre un déterminisme social, une approche totalement psychologique, gageons que le 21e siècle sache s'armer de complexité et de la richesse qu'offrent toutes les sciences d'observation et d'expertise pour laisser aux tueurs en série, même s'ils répètent des scénarios violents très stéréotypés, leur indéniable caractère d'individu, donc de cas particulier. Autopsie d'un tueur en série, dans la collection Post-Mortem est parue aux éditions de l'atelier Mosezu. C'est comme ça qu'on dit ?
Tout à fait.
Bérangère Soustre de Condat Rabourdin, vous êtes l'auteur de ce livre, vous êtes aussi anthropologue criminelle,
oui.
C'est ça ?
Oui.
Historienne et tellement d'autres choses que je ne me lance pas dans la liste.
On va peut-être éviter.
Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Je m'appelle Steve et je suis sans doute l'un des tueurs les plus brillants de ma génération. J'ai tué exactement, et moi, je n'ai pas peur de le dire, 8 personnes, 6 femmes et 2 hommes.
Bah, ça me fait penser à Eric Edgar Cook, un Australien. Pareil, 8 victimes. Mais pas de méthode. Un peu brouillon dans sa démarche.
Tiens. Hey, je dis l'un des plus brillants, mais je pense le plus brillant.
Bérangère Sousse de Condard-Rabourdin, on entend ici un extrait d'une fiction de Tariq Nouhi diffusée en 2011 sur France Culture qui met en scène une réunion de tueurs en série. Façon d'introduire de manière un peu légère, si c'est possible, ce sujet d'aujourd'hui et de questionner ce terme-là. À partir de quand parle-t-on de tueurs en série ou de serial killers et qui élabore ce terme ?
Alors, c'est un terme qui prend naissance aux États-Unis dans les années 70 en raison de recherches effectuée par deux agents spéciaux du FBI, donc ils sont Burgess et Ressler, et donc c'est à eux qu'on doit l'invention de ce terme, donc une étymologie nouvelle pour désigner des cas extrêmement cruels et terribles pour lesquels jusque-là on n'avait pas d'explication logique. Même s'il faut savoir quand même historiquement que les premiers tueurs en série sont européens et ils apparaissent au 19e siècle, début 20e. Donc on a un cas très célèbre qui est celui de Jacques l'Éventreur en Angleterre et un cas encore plus célèbre pour lequel le profilage, donc l'analyse comportementale a été inventée. C'est le cas Vacher, et c'est un cas français pour lequel la discipline a été inventée donc à Lyon par le professeur Lacassagne.
Et on est en quelle année ?
On est à la fin du 19e, début du 20e siècle. Donc la France était vraiment précurseur dans le sens où elle a été la première à se doter d'outils intellectuels et scientifiques pour, d'une certaine façon, traquer des esprits qui causaient des crimes particulièrement sordides et répétés.
Et pour autant, faut-il considérer que la répétition de crimes ou la répétition de scénarios pour tuer ou post-mortem date seulement de la fin du 19e ? C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer qu'auparavant, ce genre de cas n'ait pu ne pas exister.
Voilà, je pense qu'effectivement, le crime naît avec l'homme et il est présent dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures et à tous les moments. Je pense que ce qui a changé la donne, c'est qu'au 19e siècle, on s'est forgé des outils psychanalytique et surtout psychiatrique pour pouvoir comprendre...
Psychanalytique au 19e, probablement pas, mais...
Psychanalytique, c'est-à-dire que c'est une psychanalyse naissante, parce que bon, la naissance de la psychanalyse est quand même à la fin du 19e siècle. On commence à voir apparaître la thématique sexuelle qui va après être développée effectivement par la psychanalyse contemporaine. Mais en tout cas, toujours est-il que le problème du crime apparaît tout de suite d'emblée connoté sexuellement. Et c'est pour cela que les premiers qui vont s'y intéresser vont être d'une part les médecins légistes qui sont experts psychiatres et après par la suite des grands psychanalystes. Et donc c'est dans cette fourchette-là que se situe l'évolution. Je pense qu'effectivement le crime a toujours existé, le crime sériel, mais on n'a pas forcément ni les moyens ni les connaissances pour le passé qu'on peut utiliser pour le présent, pour les temps relativement récents.
Comment arrivez-vous ? J'ai dit qu'il y avait beaucoup de façons de vous qualifier. Peut-être votre première formation est historienne ou archéologue ?
Les deux. Moi, je viens de l'histoire et de l'archéologie. Et donc, je viens vraiment de la connaissance du passé. Parce que bon, quand on travaille en archéologie, en histoire, en archéologie, on va travailler sur la culture matérielle, sur l'objet, pour pouvoir connaître et comprendre l'évolution d'une société. Tandis qu'en histoire, on va travailler sur des documents, donc sur des sources écrites. Mais la démarche est la même. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, ce qui m'a porté à ça, c'est vraiment comprendre le passage à l'acte et comprendre l'évolution de l'esprit humain à travers les siècles, à travers les âges. Et je suis arrivée au tueur en série par la connaissance du corps biologique, parce que c'est mon premier métier, donc l'archéologie funéraire, l'histoire de la mort, et je suis arrivée après tout naturellement à m'intéresser vraiment à comment certains esprits, pas tous forcément malades, comme la plupart des gens pourraient le croire, se sont malheureusement perdus dans les méandres du crime.
Quand on exerce ce métier et la constitution de ces connaissances-là, elles n'arrivent que post-mortem, pour reprendre le titre de la collection dans laquelle vous publiez, c'est-à-dire que c'est une réflexion et c'est quelque chose qui s'élabore après le crime ?
Oui, tout à fait. C'est quelque chose... De toute façon, on ne peut pas... Le premier outil dont nous disposons pour appréhender la personnalité d'un auteur...
C'est la scène.
La scène reste primordiale. C'est pour cela qu'il est extrêmement important d'avoir un panel pluridisciplinaire de connaissances pour pouvoir appréhender à la fois le corps, donc le corps, ce qu'il en reste, la victime. Malheureusement, dans la plupart des cas, la victime est décédée. Mais on a aussi besoin de comprendre l'auteur à travers les gestes, à travers les actes et pouvoir éventuellement comprendre ou déceler une pathologie. Donc c'est un travail très très long que l'on fait à partir d'objets, de sources vraiment concrètes. Et à partir de là, on va pouvoir déceler un comportement et éventuellement cibler une analyse comportementale à partir de quelque chose qui est factuel, donc la scène de crime et le corps.
On a parlé tout à l'heure de l'apparition de ce terme-là à la fin des années 70 aux États-Unis. Oui. Est-ce que s'ensuit une spécification dans le droit à la fois américain ou européen ? Est-ce que le crime en série est puni et jugé légalement différemment que n'importe quel autre crime ?
Tout à fait. Alors pour la France, et c'est le gros débat sur la récidive des auteurs, donc on s'interroge vraiment sur le problème, le danger que des auteurs qui soient à la fois tueurs en série ou agresseurs sexuels en série, parce que malheureusement en France, on a énormément de cas d'agression sexuelle sérielle, donc c'est le problème. On s'interroge sur la façon de éventuellement éviter un renouvellement de passage à l'acte. Il faut quand même savoir que l'évolution du droit français est quand même très différente par rapport à celle du droit américain. Donc les dimensions géographiques, économiques et sociétales ne sont pas les mêmes. Il est fort sûr que les États-Unis ont eu très rapidement, malheureusement dans leur histoire, des cas qui sont passés à la postérité et qui ont été médiatisés. Donc ils se sont dotés assez rapidement d'un arsenal de jurisprudence pour contrecarrer le phénomène. En France et en Europe, on commence à y réfléchir depuis une vingtaine d'années. Donc on a effectivement pris un peu de retard par rapport à cela, mais parce que l'actualité n'était pas la même et l'étendue du problème sociétal n'est pas la même non plus.
Est-ce qu'il faut confondre, mettre sur le même plan la récidive et la sérialité du crime ?
D'une certaine façon, oui, parce que si on dit récidive, si on dit repassage à l'acte, il y aura forcément des meurtres qui vont être réitérés, donc on va recommencer sans cesse.
Donc il y a répétition.
Il y a répétition en tant qu'acte. Il faut quand même savoir qu'il n'y a pas répétition d'un point de vue strictement psychologique, parce que les conditions dans lesquelles va agir l'agresseur ne seront jamais les mêmes. Donc on ne peut pas parler ipso facto de répétition. Ce n'est pas une répétition véritable, elle est véritable dans le crime, mais pas dans l'état d'esprit dans lequel l'auteur va intervenir. Donc je pense qu'intellectuellement, d'un point de vue strictement épistémologique, il faut vraiment bien distinguer les choses.
Et est-ce que justement vous pouvez distinguer les choses d'un point de vue juridique quand vous intervenez, vous ou d'autres disciplines dans ce genre de dossier, à savoir un criminel qui va répéter un acte avec la conscience de répéter cet acte, ou répéter un acte parce que c'est un nouveau passage à l'acte, mais qui ne s'inscrit pas nécessairement dans une série. Je ne sais pas si ma question est claire.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est plutôt la deuxième option qui me semble la plus pertinente. C'est-à-dire que lorsque ces individus passent à l'acte, il n'y a pas forcément, dans leur tête, il n'y a pas une élaboration conceptuelle sur le moment. C'est quelque chose qui s'élabore dans le temps, mais chaque passage à l'acte peut être considéré différent. Il ne faut pas non plus oublier que certains de ces individus sont particulièrement intelligents, pas tous, mais quelques-uns, et que parfois ils vont brouiller la scène de crime pour faire croire, par exemple, qu'ils ont carrément changé de mode opératoire, qu'ils n'ont plus la même signature psychologique. Donc la répétition, elle n'est pas forcément, on revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, elle n'est pas forcément épistémologiquement la même. Pour moi, il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient se greffer. Parce que l'élément déclencheur, le facteur déclencheur, ne sera pas forcément toujours le même. Bon, après, il faut distinguer quand même le tueur organisé, le tueur désorganisé. Hein, la connotation psychopathique de l'individu, donc le tueur organisé, n'agira pas comme va agir un individu schizophrène ou psychotique pour lequel le passage à l'acte va être alimenté pour d'autres raisons. Il y en a un qui va agir dans une planification, dans une résolution de fantasmes, donc on est vraiment dans une conceptualisation intellectuelle très très longue. En revanche, pour le tueur psychotique, on répond vraiment à une pulsion momentanée. Donc les éléments déclencheurs peuvent être variés et diversifiés. Ils ne seront jamais les mêmes à tous les moments.
C'est pour ça que dans l'introduction, je disais, j'essayais de retracer assez brièvement trois périodes, à savoir 19e, 20e, 21e siècle, dans la façon de, entre guillemets, classer ou travailler des classifications de ces différents criminels. Aujourd'hui, avec les outils qui sont les nôtres, avec la psychanalyse, vous l'avez dit, mais aussi avec la sociologie moderne, mais aussi avec même de simples avancées, pas du tout simples, mais de neurosciences, est-ce qu'il n'apparaît pas aujourd'hui impossible de travailler ce genre de catégorie d'humains ? Est-ce que de toute façon, ce n'est pas voué à quelque chose qui ne fait pas sens, vous le dites vous-même, dans la mesure où un individu est un individu et que quel que soit son parcours, lorsqu'il passera à l'acte, il sera individuellement totalement différenciable de toute autre personne.
Oui.
À quoi bon chercher des grandes lignes ?
Parce que ça nous permet quand même d'empêcher la récidive et surtout d'empêcher l'augmentation significative du nombre de victimes. Si on se voilait les yeux, effectivement, le problème de toute science, et vous le savez mieux que moi, c'est qu'elle doit être dépassée à un moment donné et qu'elle sait qu'elle est de toute façon faillible dans son sens ultime. Donc ça, on le sait a priori. Mais le problème, c'est que là, on a de l'humain, on a du concret, on a des victimes. Donc il faut éviter, lorsque les dossiers ou lorsque les personnalités d'auteurs sont connues, il faut éviter qu'elles puissent réitérer leurs actes et donc qu'il puisse y avoir d'autres victimes. Donc je pense que la finalité, c'est surtout ça. Et en plus, l'apport de la psychocriminalistique, donc des sciences humaines qui sont centrées vraiment sur les sciences cognitives, la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie, et d'autre part la criminalistique pure et dure, qui sont les sciences exactes, donc la médecine, la toxicologie, etc., nous permettent d'appréhender de plus en plus, et de la meilleure façon qu'il soit, ces mentalités qui ne sont pas toujours, je le répète, malades. Parce que le gros problème, c'est que le crime le plus absurde, le plus sanguinaire, le plus pervers, n'est pas forcément l'aboutissement d'un esprit pathologique.
On reviendra là-dessus.
Le tueur en série, lorsqu'il commet ses meurtres, ne pense pas à faire une série. Il recommence, c'est le même meurtre qu'il recommence en permanence et en permanence. Il en commet un premier. Prenons justement par exemple le cas de Dahmer, qui est très symptomatique, parce qu'on n'a jamais su qu'il y avait un tueur en série dans la nature. Lorsqu'on l'a arrêté, on a découvert 17 cadavres, enfin les restes de 17 cadavres, et on s'est aperçu qu'un tueur en série assassinait des gens, mais auparavant on ne savait pas. Donc il a pu agir sans interaction avec les médias, ce qui complique souvent les choses. Eh bien, il a tué une première fois un jeune adolescent qui l'avait pris en stop, qu'il avait amené chez lui, et l'adolescent, au bout d'un moment, avait dit « Eh bien, j'ai envie de rentrer chez moi. » À l'époque, Dahmer habitait chez ses parents. Lorsque le jeune s'est levé, Dahmer a pris une haltère, lui a cassé le crâne à coup d'haltère, et ensuite a découpé le corps en morceaux, a fait brûler une partie, et a disséminé les os dans des jardins environnants, et une partie dans la forêt. Donc on a eu un mal fou, d'ailleurs, reconstituer le cadavre et à prouver qu'il était bien coupable de ce meurtre, puisqu'aux États-Unis il n'y a pas de meurtre sans cadavre. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé après ce premier meurtre? On peut supposer qu'il s'est senti, qu'il a eu l'impression à la fois d'impunité, il ne lui est rien arrivé, il ne s'est rien passé, et en même temps, probablement, une espèce de sentiment d'avoir franchi un pas décisif. Et surtout une espèce de moment de, où on ne peut plus reculer. Il a brûlé ses vaisseaux, il était déjà dans une sorte de dérédiction, il buvait beaucoup, ses parents étaient dans un sens de divorce, se traitaient de fou, etc. Et à partir du moment où il a véritablement commis cet acte irrémédiable, il a estimé qu'il était passé de l'autre côté et qu'il pouvait recommencer sans qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et effectivement, il a pu recommencer et il ne lui est jamais rien arrivé, sauf à la fin où, relâchant un petit peu son attention, il a fini par se faire prendre. Donc, je ne pense pas que les tueurs en série veulent commettre une série de meurtres. Simplement, ils le commettent et comme il ne leur arrive rien, comme ils se sentent invincibles et qu'ils y trouvent une sorte de satisfaction, comme au premier, eh bien, ils recommencent avec la volonté, peut-être très américaine, de vouloir se perfectionner.
Bérangère Soustre de Condard à Bourdin, on entend ici un extrait de Nuit magnétique diffusé il y a pile 20 ans sur France Culture et qui était consacré aux tueurs en série. Ici, il est question d'un cas particulier qui s'appelle Jeffrey Lionel Dahmer, qui est né en 1960 et qui est mort en 1994 dans des conditions sur lesquelles on reviendra. Et il parle, on entendait, d'une forme d'invincibilité, de sentiment d'impunité qui fait que dès lors que le premier crime reste impuni, le deuxième viendrait, dans ce cas-là, mais il tendait à le généraliser, du fait de n'avoir pas été pris et de générer un nouveau passage à l'acte.
Alors, je pense que plus que d'invisibilité, il faudrait parler davantage de sentiment de surpuissance. La plupart de ces individus sont des individus qui se construisent en profonde déconnexion avec la société environnante, en général à la sortie de l'enfance et au début de l'adolescence, là où tout se joue, hein, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, un individu se forme cérébralement d'un point de vue strictement neurologique jusqu'à 20 ans. Donc ce sont des individus qui se construisent mal, hein, qui ont un sentiment affectif insécure et ils acquièrent en tuant la surpuissance et une certaine individualité qu'ils n'ont pas dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Jeffrey Dahmer tuait surtout parce que c'était quelqu'un qui se sentait rejeté, qui avait besoin d'avoir un compagnon, de chercher le compagnon idéal, entre guillemets. C'est la raison pour laquelle il a collectionné ces macabres trophées qui étaient les têtes qu'il conservait de ses amants, parce qu'il était homosexuel. Et donc il y a ce sentiment de surpuissance et d'une certaine façon de faire payer à la société la non-acceptation de soi. Donc l'invisibilité arrive un peu plus tard, mais le mécanisme pulsionnel primaire est vraiment celui d'être en quête de quelque chose, ou bien de ce sentiment de reconnaissance que l'on n'a pas, ou bien ce sentiment d'affection, de rejet, ou bien une façon de construire un lien avec les autres qui passe malheureusement par une voie traverse, mais c'est comme ça que ça se passe.
Comment établir ce genre de considération ? Est-ce que la plupart des gens qui participent à l'établissement de ce genre de connaissances ont accès, par exemple, on parlait hier de l'importance primordiale de la parole, ont accès à la parole de ces gens-là ?
Oui, même si c'est très très difficile, notamment en France. Alors contrairement à
mais
ce
comment faire sans
croire,
sinon établir voilà, ce qu'on vient de dire sans leur parole,
c'est vraiment
compliqué.
Important effectivement de les rencontrer. Je pense que on ne peut pas connaître de toute façon intimement un tueur ou un auteur récidiviste si on ne l'a pas rencontré au moins une fois. En sachant qu'il faut prendre les plus grandes précautions lorsque l'on s'entretient avec eux, parce qu'on a souvent affaire à des esprits qui sont quand même manipulateurs et donc qui vont essayer de cibler nos failles, quelles qu'elles soient, pour arriver à nous confondre et à nous perturber. Donc il faut prendre les choses avec les pincettes en restant le plus neutre possible, mais effectivement, l'appréciation de leur personnalité doit passer par la rencontre avec eux. Ça, c'est important.
Quand on entend dans l'archive l'idée selon laquelle on pourrait presque penser à un tueur se laissant prendre par sa propre série, c'est-à-dire dès lors que le crime est engagé, le premier, le second, il y a une forme d'être prisonnier de la forme que l'on est en train d'inventer. C'est quelque chose dont peuvent témoigner certains tueurs en série.
Tout à fait.
Presque de ne plus pouvoir sortir
ils
de ce cercle-là.
Ils ne peuvent plus s'arrêter. Alors ça, c'est encore une fois, il est important de préciser les choses. Ça va concerner surtout les tueurs à aménagement psychopathe, c'est-à-dire des personnes qui vont planifier leur crime sur une période plus ou moins longue. En général, ça se passe à la fin de l'enfance, au début de l'adolescence. Donc il y a une
construction. La planification, vous voulez dire ?
La planification des crimes. Donc il y a une planification, le crime est planifié, il est élaboré conceptuellement parce qu'il répond à une notion de fantasme. Donc derrière le crime, il y a un fantasme. Et pourquoi toujours la série ? Parce que la réalité n'est jamais aussi forte et aussi puissante que le fantasme que l'on a construit. Donc il y a toujours besoin de réitérer pour obtenir davantage de sensations qui vont ressembler au fantasme intellectuel que l'on a construit sur une période très très longue.
Sans jamais l'atteindre. On entendait Lacan hier parler du phénomène de répétition qui vise et rate le réel.
Tout à fait.
Il y a quelque chose de l'ordre de la mise en acte et du passage en acte qui de toute façon ratera, là dans ce cas, pas le réel mais le fantasme.
Tout à fait. C'est-à-dire que le fantasme est tellement puissant qu'on a vraiment besoin de réitérer, parce que la réalité, une chose tout à fait objective, la façon dont la victime va se débattre. Dans la tête d'un tueur en série, la victime est une chose, elle est là pour assouvir un plaisir, pour réaliser un fantasme, mais c'est un objet. Une personne qui se fait tuer est quelqu'un qui va avoir une pulsion de vie, donc elle va essayer de se débattre, elle va crier, elle va se débattre.
Qui casse le scénario.
Elle va casser le scénario, elle va interrompre surtout une sorte de rythme. Parce qu'il y a aussi la notion de rythme qui est très importante dans tout ça. Le rythme, la mise en scène, la pulsion, donc tous ces aspects, tous ces facteurs participent de la construction et du passage à l'acte. Je pense que c'est extrêmement important. Et les choses ne se font jamais par hasard. C'est-à-dire que tout ça est construit aussi et aggravé par des facteurs sociétaux qui sont derrière tout ça. Hein. En général, bon, on ne devient pas tueur en série par hasard. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer.
C'est pour ça que quand vous parlez de crimes et de planification de crimes perpétués par des esprits non malades, qu'entendez-vous par là ?
C'est-à-dire que malheureusement, on s'aperçoit en expertise psychiatrique et beaucoup de cas français, je prends un cas très récent, l'affaire Francis Holm, par exemple.
Est-ce qu'on peut la rappeler très très brièvement ?
À Francis Holm, mais le routard du crime, donc c'est un tueur en série français, c'est le premier grand tueur en série français qui a été donc appréhendé au bout de plusieurs années de crimes non appréhendés. C'est quelqu'un qui n'avait pas, donc c'était un tueur très particulier parce que c'était quelqu'un de complètement déraciné socialement, SDF, qui allait de foyer Emmaüs en foyer Emmaüs avec des problèmes psychiatriques qu'il portait en lui derrière depuis une période très très longue. Cela étant dit, c'est quelqu'un qui a été difficilement, on va dire, qui a été cerné difficilement. Pourquoi ? Parce que contrairement à la plupart des tueurs organisés ou psychopathes, il n'avait pas de cible idéale. Donc il pouvait s'en prendre aussi bien à un enfant, à une femme âgée. Et ses victimes, on trouve de tout dans ses victimes. Il n'y avait pas de cible idéale.
Alors où était la constante ?
La conscience, c'était ce besoin de délibérer une pulsion motrice extrêmement forte, de violence à l'intérieur de soi, de se sentir vraiment refusé par la société. Donc ça passait à travers ça. Mais Francis Holm, malgré les crimes sordides dont il a été accusé, est quelqu'un qui, en expertise psychiatrique, a été retenu responsable de ses actes. Donc ça, ça prend tout son sens au niveau pénal, parce que jusqu'à la réforme du code en 94, on estimait qu'une personne malade, ou une personne, on va dire, avec une altération du discernement, est une personne qui ne pouvait pas être poursuivie d'un point de vue judiciaire. Or, avec cette réforme pénale, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait aussi être avec un esprit confus au moment des faits, mais on est pour autant responsable de ses actes.
Qu'est-ce qu'on dit, pardon d'insister sur cette question, mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit que Francis Holm n'est pas, ne relève pas d'un pan de la psychiatrie ? C'est-à-dire, comment peut-on considérer aujourd'hui, avec les connaissances qui sont les nôtres au XXIe siècle, qu'un tel passage à l'acte, c'est-à-dire vraiment l'idée de faire correspondre un fantasme extrêmement violent et de se servir du corps d'autrui pour y parvenir ou n'y parvenir jamais, comment peut-on affirmer aujourd'hui que cela ne relève pas de la psychiatrie ?
Ça, il faut le demander aux experts.
D'accord.
Il faut le demander aux experts. Alors, on n'est pas toujours facilement d'accord les uns avec les autres, mais en tous les cas, toujours est-il qu'il est considéré, il a été jugé comme étant responsable de ses actes.
Ce qui est encore une autre question pour moi, mais en tout cas, la question de la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on peut se dire, Francis Holm, par exemple, n'a pas besoin d'être soigné. On n'a pas besoin de soigner cet homme.
En fait, le gros problème, on va en revenir à un titre d'un essai magnifique, qui était un essai de Michel Foucault, « Surveiller ou punir ». Le gros problème, c'est que fait-on de ces individus ? Sont-ils malades ? Donc, dans ce cas, on va prévoir une thérapie, soit-elle médicamenteuse ou en psychothérapie, mais il faut en faire quelque chose, ou alors les incarcérer. Mais la société se doit de faire quelque chose. Ce sont quand même des humains. Malgré l'horreur de leurs crimes, ils restent quand même des humains. Donc le gros problème, c'est que doit-on en faire ? Et le gros problème et le grand mérite de la psychiatrie française au cours de ces dernières 30 années, c'est que finalement, on s'est aperçu que les moyens de la psychiatrie mis en acte servent surtout à réinsérer, réintégrer.
Oui. Ah oui.
Tout à fait. Je sais que ça peut paraître, mais on s'est aperçu à la lumière de beaucoup de cas et de beaucoup d'affaires qui ont été traitées, que finalement, il était préférable... Bon, fort heureusement, on n'a pas des Francis Holm à tout bout de champ, mais il est facilement et beaucoup plus important de réintégrer que de mettre dans un coin, parce que mettre dans un coin...
Mais bien sûr, mon étonnement était de dire ça, c'est fonctionnel, c'est-à-dire que les différents internements, les différents processus de cure en psychiatrie concernant ces criminels-là sont des cures qui ouvrent vers de la réinsertion sociale, vers un mieux-être de tous.
Dans certains cas, après, il faut voir aussi au cas par cas, d'où la notion d'individualité, parce que bon, pas tous les criminels ont malheureusement le même palmarès. Dans des cas très très graves, il y a des peines incompressibles, donc les personnes ne sortiront pas de prison au bout de 30 ans. Donc bon, je pense qu'il faut vraiment aller au cas par cas et ne pas généraliser. Et comme vous disiez très justement tout à l'heure, la notion d'individu dans tout ça est extrêmement importante.
On peut dire qu'aujourd'hui, le tueur en série obéit à une définition assez stricte qui a été établie aux États-Unis par le FBI. On l'appelle aussi criminel narcissosexuel. Pour définir un criminel narcissosexuel, il faut que s'additionne un certain nombre de 7 critères que je vais évoquer. Un homicide à dimension sexuelle, c'est-à-dire manifestement commis dans le but d'éprouver une jouissance sexuelle, l'absence de mobile apparent, une victime déshumanisée et instrumentalisée, c'est-à-dire en fait souvent mutilée.
Y compris post-mortem.
Post-mortem, oui. Une série ou une annonce de série criminelle, et là c'est parfois un peu délicat. 3 homicides en principe sont exigés pour définir une série criminelle, mais 2 peuvent suffire. Des assassinats séparés par des périodes d'accalmie, une signature qui permet d'établir l'identité de l'auteur de plusieurs crimes.
Une signature donc d'ostentation, une sorte de narcissisme ostentatoire.
Voilà, la signature étant ce qui n'est pas nécessaire au crime, mais qui l'identifie en quelque sorte, ou plutôt permettrait d'identifier son auteur.
Et puis quel est le dernier critère alors ?
Et puis l'existence d'une sorte de territoire de chasse. Et des dates qui semblent avoir des valeurs symboliques.
Je vous vois faire la moue et heureusement peut-être Bérangère Soustre de Condard-Abourdin. C'est un extrait de La Concordance des temps, émission de Jean-Noël Jeannet, consacrée à la figure du tueur en série en 2001. Malheureusement, je n'ai pas du tout les moyens de vous dire qui parle. Simplement, c'était intéressant pour moi de faire entendre cette énumération de critères. J'avoue, pour la relativiser, c'est-à-dire que quand on entend une telle rigueur dans la possibilité de mettre des individus dans des cases telle frontière entre celui qui est et celui qui n'est pas, on se dit que peut-être le côté maniaque que l'on trouve dans la planification du tueur en série est presque le côté maniaque que l'on retrouve dans ceux qui vont établir des critères
absolument.
Tellement engrillagés dans lesquels faire rentrer des humains. Aujourd'hui, pourtant, votre métier, j'imagine, se sert de ces critères. De quelle manière ?
Se sert de ces critères avec beaucoup de distanciation. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un tel point à travers l'évolution de la psychiatrie, de la médecine légale et de la criminalistique qu'on s'aperçoit que finalement toutes les catégories qui ont été créées, qui sont des catégories d'usage, ne peuvent pas toujours forcément être appliquées. C'est-à-dire que là, par exemple, on entendait parler de personnalité narcissosexuelle. Tous les crimes sériels n'ont pas forcément de connotation sexuelle. Les motivations peuvent être différentes, idéologiques, de pouvoir, religieux. Donc il faut faire extrêmement attention à ne pas faire d'amalgame. Et en plus, encore une fois, distinguer la personnalité à aménagement psychopathe de la personnalité à aménagement, par exemple, schizophrène ou psychotique, on n'agira pas du tout de la même façon. Et en plus, on a encore une fois un passage à l'acte qui est toujours différent. Donc, il ne va jamais se passer de la même façon. Il va rester, il y aura des constantes, le mode opératoire.
C'est pour ça qu'on parle de série.
C'est pour ça qu'on parle de série. Donc, on aura ces grandes catégories. Mais on ne peut pas coller chaque cas dans ces grandes catégories qui ont été créées pour avoir vraiment des outils d'appréciation qui nous permettent effectivement de construire la série à travers des rapprochements entre des crimes qui sont plus ou moins semblables.
Quand je parle donc de l'utilisation de ces critères, c'est parce que c'est l'un des outils très importants du métier que vous exercez. À quoi ressemble ce métier dans la pratique, dans votre vie de tous les jours ? Par qui êtes-vous appelé ? À quel moment intervenez-vous dans des dossiers judiciaires ? Et quel est le quotidien de votre métier ?
Alors, le quotidien, c'est énormément d'apprentissage. Ça, c'est la première chose, qu'il s'agisse du terrain ou des formations universitaires de haut niveau auxquelles nous sommes soumis. On est appelé tout simplement en tant qu'expert par les procureurs de la République. Donc, on est mandaté en tant qu'expert pour travailler dans nos disciplines de spécialisation.
À partir d'un crime, toujours ?
À partir d'un crime, en général, c'est la découverte d'un corps, c'est la découverte... moi, j'ai travaillé sur plusieurs cas de corps découverts au bout de 10, 20 ans, 30 ans, voire plus. Et dans ce cas-là, on est tout de suite appelé sur le terrain. Bon, il n'y a pas forcément, derrière chaque cadavre, un tueur en série, loin de là. Et fort heureusement, d'ailleurs, il y a souvent des crimes crapuleux, des histoires d'amour mal résolues, de haine. Mais donc, on n'a pas de tueur en série partout. Mais c'est quand même un métier dans lequel il faut suivre l'évolution constante des sciences et donc se remettre toujours en situation de très grande humilité. Et c'est ça qui distingue un petit peu, je pense, la notion d'expert aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, la notion d'expert est régie surtout par la méthodologie que l'on va employer, par la façon que l'on a de se remettre en question sans cesse. En France, le titre d'expert, c'est vraiment sur la personne, sur l'individu davantage que sur ses compétences à proprement parler. C'est très difficile d'avoir l'humilité de se dire à un moment donné, on n'est plus dans le jeu parce qu'on est largement dépassé. Et il y a beaucoup d'experts qui malheureusement n'ont pas suivi forcément l'évolution, notamment des sciences psychiatriques aux États-Unis. Je rappelle que prochainement va paraître en France la 5e édition du DSM-5, donc le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui est la Bible.
Ça dépend pour qui, quand même.
Malheureusement, même si elle est extrêmement controversée, elle reste, comme la classification internationale des maladies, des outils vraiment d'appréciation, même si, encore une fois, il faut prendre les choses avec beaucoup de distanciation. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on doit suivre tout le temps l'évolution de ces sciences qui sont vraiment en continuelle évolution. C'est faramineux. Pour les sciences psychiatriques, aux États-Unis, on a des parutions mensuelles de 100 à 200 articles.
À partir d'un corps, qu'est-ce qui va vous faire aller plutôt vers la piste d'un crime unique et, comme vous dites, crapuleux, voilà, malheureux, violence ordinaire, à l'élaboration d'un scénario qui va davantage toucher à la criminologie sérielle ? À la criminalité sérielle.
Tout d'abord, l'appréciation de la scène de crime, le contexte dans lequel le corps va être retrouvé. Il faut quand même savoir que lorsque l'on travaille sur le portrait d'un tueur ou d'un agresseur, parce que c'est aussi important, on peut travailler aussi sur des agresseurs sexuels, on s'interroge à la fois sur l'auteur, mais sur la victime. La victime nous dit beaucoup de choses. Donc on va s'interroger sur son environnement, on va s'interroger sur le passé psychologique de la victime, sur son mode de vie, on va s'interroger sur les traces que l'on va retrouver sur la scène de crime qui vont pouvoir témoigner d'un passage à l'acte particulier à l'égard de ce corps, à l'égard de cette personne. Et ça va nous permettre d'avoir donc une somme d'informations tirées de notre checklist qu'on va mettre après en comparaison avec d'autres crimes semblables dans les années pas très très lointaines, dans la même région, etc. Donc on va faire des regroupements par système informatique. Donc ce sont des calculs assez compliqués. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on travaille toujours en équipe. Voilà encore une idée assez reçue du grand public habitué et friand de séries américaines et de polars à sensation, c'est que
le profiler est tout seul dans son coin. Avec ses post-it et ses photos.
Profiler, c'est quand même quelqu'un qui est un acteur premier de la vie judiciaire. C'est quelqu'un qui va travailler donc au service de la justice. Donc, il se doit de travailler en équipe. D'où l'importance d'être présent sur la scène de crime, d'être en dialogue, en communication constante avec les premiers intervenants. On ne souligne pas toujours le rôle très important qu'ont les forces de l'ordre. Donc les premiers intervenants, gendarmerie ou zone police nationale, sont très, très importants parce qu'ils vont relever les premières choses, les premières sensations, les premières impressions, les premiers constats scientifiques. Donc après, pour nous, c'est une mine de renseignements extrêmement importants. Et comme disait Vernon Gebert, qui a été agent du FBI et grand, grand, grand détective aux États-Unis pendant plus de 30 ans, tout ce qui est perdu au début d'une scène de crime ne sera jamais récupéré.
Cette semaine, nous feuilletons un recueil de Valérie Rouzeau, poétesse française, traductrice aussi. Ce recueil s'appelle « Pas revoir », elle y évoque son père mort. Il est paru en 1999 aux éditions de la Table Ronde et les poèmes nous sont lus par Flora Brunier.
Dedans la chambre où j'ai grandi, le gel a gelé l'eau de source. Je dors là, craque le plastique. Dehors, toute une éternité hulotte chante clair. Avant le coucher, mon père et moi, chacun a un lavabo, lui se trouve en jaune, moi mentant que pas tellement. Mais il était jonquille, forsythia, du tout la bonne heure du printemps. Les beaux jours vivement qu'il disait, vivement. Le ciel se danse, parfois le soleil juste en face. Je prends son vélo à mon père. en vitesse rayonnant comme libre. Cadre d'alu, vaches légères, plateau pour leurs panses montgolfières, toujours librement des rayons.
Quels sont vos mobiles, Bérangère Soustre de Condard à Bourdin, pour faire entendre ce morceau, Improvisation sur les folies d'Espagne? Ça faisait partie de vos vœux.
Parce que je suis particulièrement attachée à certains sons, pour des raisons personnelles et sentimentales, et je suis une très très grande romantique, et hypersensible, et je suis particulièrement sensible à cette musique. Voilà.
Et ben voilà des mobiles qui se tiennent parfaitement. Autopsie du tueur en série Bérangère Soustre de Condard à Bourdin. C'est paru dans la collection Post-Mortem aux éditions L'Atelier Mosé-Cézu. Et c'est un autre métier dont il est question, thanatopracteur, mais signalons que la fiction qui part d'un personnage féminin thanatopracteur et qui est extrêmement enlevé. La passion de l'étanche signée Notre Miss Anne-Laure Chanel se retrouve parfaitement sur le site internet franceculture.fr. Merci beaucoup Magan d'avoir été avec nous. Et je casse mon stylo. Pour écouter cette émission, le site franceculture.fr vous sera d'un parfait secours. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast de l'émission qui s'appelle Pas la peine de crier, ou à celui du poème du jour, celui du Polaroid ou celui de Jeu des balles, ma bibliothèque. Pour nous écrire, un formulaire est disponible sur la page de l'émission. Merci pour vos messages. On peut aussi se dire deux, trois petites choses et se donner des nouvelles sur Twitter. Nous signons @paslapeine2. Aux manettes aujourd'hui, c'était Pierrick Monsigny. Merci à Cyril Baer, Inès Duperron et Romain de Bec de Lièvre qui pense et prépare cette émission en série, on est obligé de le dire, avec moi. Une émission réalisée par Miss Anne-Laure Chanel.